Je suis Oubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Time Magazine l'a qualifiée de première diva d'Afrique et l'a classée parmi les 100 personnes les plus influentes du monde pour 2021. La BBC l'a incluse dans sa liste des 50 personnalités les plus emblématiques du continent. Et en 2011, The Guardian l'a classée parmi les 100 femmes les plus inspirantes du monde. Le magazine Forbes l'a classée première femme dans sa liste des célébrités les plus puissantes d'Afrique. Elle a récemment reçu le prestigieux Crystal Award 2015, décerné par le Forum économique mondial de Davos en Suisse, le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International 2016, le German Sustainability Award 2018 et le Vilsack Prize in Music 2023. En tant qu'artiste, sa voix saisissante, sa présence sur scène et sa maîtrise de plusieurs cultures et langues lui ont valu le respect de ses pairs et lui ont permis d'élargir son public au-delà des frontières nationales. Angélique Kidjo a croisé les traditions ouest-africaines de son enfance au Bénin avec des éléments de R&B, de funk et de jazz américain, ainsi qu'avec des influences d'Europe et d'Amérique latine. Béninoise et française, 5 fois lauréate des Grammy Awards et lauréate de l'Académie Charles Cross, connue pour la diversité de ses influences, l'originalité de ses clips et son engagement humanitaire comme ambassadrice internationale de l'UNICEF par exemple. Angélique Kidjo, bienvenue dans Conversation Féminine.
Merci pour l'invitation, ça fait beaucoup, hein. Vous avez lu tout ça, quand j'écoute à chaque fois je me dis c'est pas moi, ça vous parlez de quelqu'un d'autre ça.
Ouais, et ça fait cet effet là et moi je suis super heureuse, je suis émue et je suis enchantée de vous avoir en face de moi parce que rien ne me préparait à ce moment là et il faut qu'on ose dire ces choses là, rien ne me préparait à avoir cette conversation avec vous et donc je voudrais vous dire que je suis émue et heureuse de vous avoir en face de moi.
Merci, rien ne me préparait non plus à avoir la destinée que j'ai eue,
oui.
Si ce n'est pas la détermination de mes parents à me laisser être qui je voulais être. On dit toujours que c'est à la maison que les choses commencent. Et quand on vient d'une tradition orale comme vous et moi, nos grands-parents, nos parents ont une importance capitale dans notre façon de nous conduire, dans notre façon, ça façonne notre façon de réfléchir à soi et comment aller vers l'avant. J'ai grandi dans une famille de 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Mon père est fils unique, ma mère est fille unique, ce qui est rare ici en Afrique.
Totalement.
Donc ils se sont retrouvés, ils se sont rencontrés, ils ont décidé d'avoir une famille avec des règles. Ma mère a dit à mon père avant de l'épouser, je veux t'épouser, avoir une famille avec toi, mais ma passion, c'est le théâtre. Et un jour, il va falloir que j'aie une troupe de théâtre. Elle l'a fait dans les années 60. Et moi, j'ai commencé à chanter sur la scène du théâtre de ma maman. J'avais 6 ans. Mon père et ma mère sont des parents. Aujourd'hui, je m'en rends compte encore beaucoup plus que jamais, qui ne nous ont jamais dit, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mon père dit, si tu fais quelque chose de bien, félicite-toi-même. Mm-hmm. Quand tu fais quelque chose de mal, tu demandes pardon.
Totalement.
Il n'y aura jamais de culpabilité à la maison. Mm-hmm. Parce que la culpabilité pour mon père, c'est un frein à se développer. Mm. Et que la culpabilité, ce n'est pas fait pour le développement personnel, ni pour l'avenir positif de quelqu'un. Donc tout ça, c'était clair dès que j'étais enfant. Mon père et ma mère avaient décidé aussi que la maison où on a grandi serait une maison ouverte au monde entier. Pas un seul être humain n'a mis les pieds chez moi sans avoir eu à manger et à boire et un endroit où se coucher. 10 enfants, famille élargie. Comment on dormait, j'ai des souvenirs de ma natte dans la cour, me faire bouffer par les moustiques parce qu'il n'y avait plus de place dans la chambre. Mais ma maman et mon père disaient toujours, tant qu'il y a un sol, on peut se coucher, on peut s'asseoir.
Tout à fait.
Mais il y avait des règles dans cette liberté. Mmh. Il n'y avait pas de sujet tabou. Il y avait 3 exceptions pour mon père. Le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Mmh. Il n'y avait pas de place à la maison. Mon père dit, ceux qui ont cette façon de penser sont des manipulateurs. Très habiles à vous changer en une fraction de seconde et vous ne vous connaissez plus. Je n'ai pas de plateforme pour la haine, l'antisémitisme ou la xénophobie, le racisme chez moi. Ça n'existe pas chez nous. Mm-hmm. C'est dans ce contexte que moi j'ai grandi, en posant des questions.
Oui, et en ayant la liberté de ton. C'est quand même assez impressionnant, quand on parle des années 60, d'avoir autant de liberté dans le ton et dans la manière d'être et dans la décision de son parcours de vie. Je crois que c'est quasi la première fois de toutes les femmes que j'ai interviewées qui ont eu autant cet espace-là pour s'exprimer. Mmh. Comment on se construit dans un environnement comme ça?
Ah, mais c'est... D'abord, avec cette fraise, c'est la guerre. C'est la guerre constante. Parce que, bon, ben, il faut arriver le premier.
Oui.
On apprend à être dans la concurrence, dans le respect de l'autre.
Quelle est votre position dans la fratrie,
moi,
d'ailleurs?
Moi, je suis septième.
Ah.
J'ai quatre frères avant et trois frères après.
Vous êtes la seule fille?
Non, je suis la dernière des filles, la chouchou de mon papa. Bon.
D'accord.
Je crois que nos parents ont compris très tôt.
Oui.
Que l'éducation devait être au centre de nos vies.
Mmh.
Mon père disait toujours, si tu veux être un citoyen ou une citoyenne épanouie dans le monde dans lequel on vit, il faut que tu sois éduquée. Pourquoi? Parce que mon père dit, le monde est en perpétuel changement. Moi, quand j'ai grandi jusqu'à vos naissances, c'était autre chose.
Mmh.
Comment est-ce qu'on peut être un être humain si on n'est pas éduqué de comprendre que les changements inaliénables et inévitables ne sont pas contre vous, mais que c'est une opportunité pour changer et évoluer.
Tout à fait.
Il faut être éduqué pour comprendre que les changements font partie de la vie. Il faut aussi se dire qu'il faut poser des questions. Moi, mon surnom de ma famille, c'est pourquoi, quand, comment. Donc, quand j'arrivais dans le village de mon père, là, les personnes arrivent, elles, voilà qu'elles arrivent, elles s'en vont. Mon père va les chercher. Mon père dit, mais il faut lui répondre.
Oui.
Son histoire n'est écrite nulle part. Racontez-lui, elle pose une question, répondez-lui. Si elle vous demande telle chose par rapport à tel rythme, si vous ne lui expliquez pas, comment elle va savoir?
C'est marrant que vous disiez ça, parce que je suis venue avec mes enfants à cet enregistrement-là. Là, je suis partie les poser à un endroit pour leur dire manger. Mon fils pose tellement de questions, il passe sa vie à dire pourquoi, quand, comment, jusqu'à quand, etc. Et c'est trop marrant, parce que dans la chaloupe, tout de suite, je lui disais, je suis fatiguée, s'il te plaît, pas de questions aujourd'hui, je suis fatiguée.
Ah,
mais c'est magnifique.
Non, il ne faut pas.
Oui.
Il ne faut pas du tout.
Oui.
Il faut élever les enfants en acceptant leurs questions.
Mm.
C'est comme ça qu'on forme des adultes libres et indépendants. Mon père n'a jamais dit, il y a pas de, tu ne peux pas poser cette question-là. Ça n'existe pas.
Mm-hmm.
Ma mère avait deux livres qui s'appelaient Mon médecin. Un sur le corps de l'homme et l'autre sur le corps de la femme. Toutes mes copines venaient à la maison. Elles nous expliquaient comment fonctionne l'appareil reproductif chez les hommes, les maladies. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie non plus qu'on se retrouve à la merci des gens. L'information, c'est le pouvoir qui vous rend indépendant.
Totalement.
On ne peut pas, si vous êtes informé, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas vrai, vous pouvez réfléchir.
Oui.
La réflexion critique,
c'est important.
Est très importante. C'est la même chose pour les religions.
Oui.
Moi, j'ai grandi en face d'une mosquée. Mon père nous a envoyé à l'école coranique tous les étés. Allez-y comprendre ce que c'est. L'église, je suis catholique. Quand j'ai dit à mon père, je ne veux plus aller à l'église parce que je n'ai pas envie de me confesser, ça ne m'intéresse pas. Mon père a dit, bon, ça me va. Si tu crois, si ta foi est ancrée dans le bien ou le mal, et que tu sais la discerner, c'est tout ce qu'il te faut. Laisse le bon Dieu te juger.
Clairement.
C'est tout. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world.
Par rapport à la société dans laquelle vous avez grandi et la génération dans laquelle à laquelle vous appartenez, comment vous étiez perçu par les gens de cette même génération-là qui n'avaient pas forcément ce même, on va dire, ce même moule ou cette même manière d'être éduqué à la maison? Vous ne faisiez pas l'effet d'un ovni? Comment ça se passait?
Moi, je faisais... Ah, mais ça a commencé... Moi, j'étais déjà un ovni à la maternelle parce que j'étais l'enfant le plus vacciné au monde. Ma mère, du moment où il y a eu des sensibilisations de vaccination par l'UNICEF, ma mère nous a traînés partout. À chaque fois, je revenais avec mon vaccin, je disais, ah, là, voilà, qui est vacciné. Moi, ça a commencé, on était des ovnis, sérieusement.
Oui.
Mais en même temps, je comprends avec le recul, mm-hmm. en étant mère aujourd'hui, qu'étant fils unique et fille unique, les seules personnes qu'ils ont, qu'ils avaient, c'était nous.
Oui.
Donc, ma maman avait une phobie qu'une maladie nous tue. Donc, elle était tout le temps en train de dire, l'hygiène, attends, tu sors de la maison, tu te laves pas. Avant de prendre ton balai pour balayer, tu ne t'es pas lavé la figure. Oui. Elle passe par derrière, te donne un coup dans la tête, elle dit, tu touches pas mon balai, toi.
Oui.
C'est des règles de vie avec mm-hmm. lesquelles j'ai grandi. Et l'une des choses aussi, il y a plusieurs choses qui ont façonné la personne que je mm-hmm. suis. Mon père, ma mère disait toujours, quand tu t'engages à faire quelque chose, quand tu as dit oui, mm-hmm. tu ne reviens pas en arrière.
On est d'accord.
Peu importe ce que ça te coûte. Mm-hmm. Parce que ta langue, là, il faut la tourner, c'est dans ta bouche. La parole, c'est comme un œuf. Quand ça tombe et ça se cache, tu ne peux pas ramasser. Mm-hmm. Donc, tu réfléchis. Quand tu as dit oui, tu y vas. Ça va te coûter, mais la prochaine fois, tu réfléchiras avant de dire oui ou non.
Oui.
Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. Ça marche dans toutes les circonstances. Mm-hmm. Quand tu dis non à un mec, c'est un non clair et net. Mm-hmm. Et la personne s'en va.
Oui.
Deuxième chose, ne jamais laisser les autres te définir mm-hmm. qui tu vas être. Parce que quand tu es en train de te construire, mm-hmm. quand tu grandis, tu ne sais pas qui tu es. Mais ce n'est pas le fait de grandir dans une maison où tu as la chance de parler. Il ne faut pas dire aux enfants de se taire.
Oui.
Parce qu'un enfant qui se tait, c'est un enfant qui devient une victime à l'école.
Mm-hmm.
Parce qu'il dira parce qu'il va mal. Moi, un truc se passe à l'école, je rentre à la maison, je dirais, mon père, il va dire. Mon père, il payait l'année scolaire, il faisait le tour des écoles. Il paye, rubis sur ongle.
Oui.
Il dit, mes enfants, je les envoie à l'école pour une connaissance académique. Je ne tape pas mes enfants. Vous ne tapez pas mes enfants.
Mmh.
Parce que si vous tapez mes enfants, vous allez vous attaquer à moi. C'est comme ça qu'il nous a protégés aussi.
Mmh.
Des traditions qui peuvent nous faire mal. Des scarifications par les magies. Mon père a dit, ah non. Hein.
Mmh.
Vous voulez l'argent pour la cérémonie, vous allez boire. Je vous donne l'argent, mais laissez mes enfants tranquilles. C'est-à-dire que nos parents nous ont permis d'être des êtres de raison.
Mmh.
Avant de faire quelque chose, tu réfléchis. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, tu fais quelque chose de mal, mon père dit, il n'y a aucune honte à s'excuser, à demander pardon.
Mm-hmm.
Parce que si tu ne le fais pas, ça te bouffe. Donc, tu donnes la place à la culpabilité. Ma mère, sa leçon, la leçon la plus importante de ma mère pour moi, c'est l'envie. Ma mère dit, tu es une jeune fille, tu es envieuse, tu finiras mal. Contente-toi de ce que tu as. Si tu veux plus, travaille pour.
Clairement, clairement. C'est totalement, c'est important en fait de pouvoir, en Wolof, on a un terme pour ça, c'est de se contenter de ce que tu as et on appelle ça doilo. Et de retrouver ça dans une autre culture, ouest-africaine encore, c'est super intéressant. Par contre, il y a quelque chose depuis tout à l'heure. Vous m'avez dit, votre père est enfant unique, votre mère est enfant unique. Quand on est enfant unique, comment on en vient à l'envie d'avoir une grande famille? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les années et le recul, vous pouvez l'analyser? Qu'est-ce qui a fait cela, qu'ils se soient retrouvés comme ça et qu'ils aient décidé, en fait, ensemble d'avoir une grande famille?
C'est que mes deux grands-mères sont devenues veuves très tôt.
D'accord.
Et elles ont refusé d'épouser la personne proche, leur frère ou le cousin direct de leur mari.
Comme le Lévira? Pareil, voilà. Ok, ils d'accord.
Ont dit, non.
Donc, elles ont eu chacun un enfant, elles ont perdu leur mari.
Ils ont perdu les autres enfants, et eux, c'est eux qui sont restés, en fait.
Et déjà,
ils sont devenus enfants uniques oui. par décès des autres.
Wow, c'est encore, oui.
Ah ouais.
Ouais.
Ma grand-mère maternelle a perdu son fils, il avait 7 ans.
D'accord.
Donc, ma maman a grandi, elle n'avait même pas connu son frère, elle avait suffisamment... D'accord. Elle ne peut même pas te décrire son frère, qui c'est.
D'accord.
Ma grand-mère maternelle a perdu sa fille.
Oui.
Relativement tôt, j'ai des cousines, mais moi je l'ai connue. Ma tante, elle est morte. Je l'ai connue brièvement, quoi.
Oui.
Ce qu'il y a, c'est que moi, la question que j'ai toujours posée à mon père, j'ai dit, ta mère ne sait ni lire ni écrire.
Mm-hmm.
Elle t'a envoyé à l'école et pourquoi?
Mm-hmm.
Elle a dit, ma mère a dit. Je voulais t'envoyer à l'école parce que cette injustice,
mm-hmm.
ce rejet de la famille de son mari,
mm-hmm.
violente,
mm-hmm.
où tu te retrouves seule, sans le soutien de ta propre famille parce que tu as refusé cette tradition. De l'autre côté, c'est la même chose. Qu'elle se retrouve seule, ça l'a rendue tellement en colère, ma grand-mère, qu'elle a dit, mon fils va aller à l'école. Je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il aille à l'école. Je vais avoir un business, je vais avoir de l'argent. Et mes contrats, là, c'est mon fils qui va me les signer bien même. Elle, c'était son but, ça. Mais c'est vrai que ma grand-mère, le pain, le wax, comme on le vend dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est elle qui l'a commencé. Mmh. Au départ, au marché, il n'y avait que des mecs. Mmh. L'Église disait les veuves, les femmes n'ont pas leur place au marché. Mmh. Elle a été voir le prêtre de son église en disant, le pape n'a qu'à me donner une lettre en disant que les femmes veuves là, ne peuvent se prostituer pour nourrir leurs enfants. Sinon, moi, je vais aller au marché.
Ouais, c'est une belle lignée aïe, de femmes fortes.
Aïe, 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 ma grand-mère là, ouais. Ma grand-mère paternelle là, sa bouche. Ouais. Wow, 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 wow. Elle ne prend pas des raccourcis, hein. Mm-hmm. Elle va direct au centre.
Ouais.
Et à cause de cette expérience difficile, elle avait une psychologie des gens mm-hmm. dingue. Mm-hmm. Une personne arrive et te dit un truc, c'est ça quoi.
Ouais.
Moi, j'étais épatée par ça. Tu marches et te dis tout de suite, cette personne ne fait pas confiance. Tu n'écoutes pas. Et tu vas te redonner un problème.
Oui.
Ma grand-mère maternelle, par contre, elle, c'était une herboriste. Mm-hmm. C'est-à-dire, dans la famille maternelle du côté de ma mère, c'est une lignée de plantes, de femmes qui plantent des choses. Moi, quand j'étais gamine, petite, elle me réveillait à 5 heures du matin. On va aller chercher telle chose. Il y avait une plante, je ne connais même pas le nom.
Cette connaissance des plantes, oui.
Ah, bah, ouais. Exact. Et il y avait une plante, elle me dit, cette plante, elle est bonne à rien, elle est bonne que pour le sol et pour le haché. C'est un poison, tout les... Je connais, je ne me rappelle même pas le nom, mais je me rappelle l'odeur de la plante.
Oui.
Ça existe partout en Afrique de l'Ouest. C'est un poison, tu ne peux pas toucher.
Oui.
Donc, moi, j'ai grandi avec deux grands-mères qui me contrebalançaient.
C'est fascinant.
sem at mi modi atim goni soxlawul ñi bare wax même djema bolou tewan mag ñi ñoy dole rew ku ne bu taggo ay wajurum di sok gum ca ñal beel fu mu ne si aduna san ca yaakar lu bax ya ye xale yow mi mi la ko bëgge waaw bunu waxtan nik suñuy bay mak metna batim rew lu ñu wax ñu degg ko bolek suñuy xalaat ñi ci bitik ñi ci biir fu way manane nan bolé suñuy xalaat yow mi jëm kanam yaay.
C'est fascinant. J'aime aussi évoquer les miennes. J'aime beaucoup parce que j'ai aussi grandi avec mes deux grand-mères. J'ai une grand-mère marocaine, 100%, une grand-mère sénégalaise, 100%. Et du coup, j'ai été balancée entre deux environnements comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un évoque ses grands-parents, ça me fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça me touche énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de vos grands-mères?
La force d'être indépendante.
Oui.
Ma grand-mère maternelle, elle disait toujours, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère maternelle.
Mmh.
Je vais commencer à revenir quand j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, je sors de l'école et tout d'un coup, je rentre, on est sur le chemin pour aller à l'école, à la maison et revenir l'après-midi.
Mm-hmm.
Je reçois une pierre, du sable, des crachats, des insultes, la prostituée, la pute, parce que je chante. Si je chante, je suis forcément prostituée.
C'est violent.
C'était d'une violence pas possible. Donc j'arrive à la violent. Maison, ma grand-mère était là. J'ouvre le portail en pleurs.
Bah oui.
Je ne pouvais pratiquement pas parler.
Oui.
Et je tremblais de partout. Je suis venue, j'ai perdu la moitié de mon cahier. Ma grand-mère, elle a pris peur. Elle ne m'a jamais vue comme ça. Elle m'a prise, croyant que j'avais plus de blessures plus importantes. Elle a déjà commencé à penser à ses plantes. Qu'est-ce que mm-hmm. Et elle me dit, s'il te plaît, tu peux te calmer et me parler. Parce que là, je suis en panique totale. Je veux comprendre ce qui se passe.
Mm-hmm.
Et je lui dis en sanglots, je ne veux plus chanter.
Mm.
Là, elle m'apprend, elle me fait asseoir, elle me nettoie. Et elle s'assied devant moi, me dit, tu as pleuré longtemps là, moi. Et je lui explique ce qui vient de se passer. Elle me dit, je comprends que tu sois blessée. Mais tu ne seras blessée que si tu laisses les gens que tu ne connais pas te blesser.
Mm.
Je veux t'apprendre une chose. Dans cette vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde, ça va dans les deux sens. Tant que ce que toi tu fais te rend heureuse et que ta famille te soutient, les gens parleront toujours. Car le jour où on ne parlera plus de toi, ça veut dire que tu es morte et qu'il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est ma grand-mère maternelle. Hein. Ma grand-mère paternelle apprend ça. Elle vient à la maison et me fait, ça va pas toi. Tu pleures. Pourquoi? Les gens que tu connais pas, que tu n'es pas, ils t'insultent. Et toi, tu pleures. Non, mais attends, ça va pas, non? Je la regarde, je dis, mais pourquoi elle m'engueule? Elle me dit, elle me fait, le bon Dieu nous a envoyé son fils pour nous aimer. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a crucifié. Toi, t'es qui, toi? T'es Jésus? Je dis, non, je ne suis pas Jésus. Grand-mère, je ne suis pas Jésus. M'emmène pas là-bas, s'il te plaît. Laisse-moi ici. Mais ce n'est pas ça. Deux approches complètement différentes par rapport à l'expérience de la vie. Et ma grand-mère maternelle, la deuxième leçon qu'elle m'a donnée, m'a dit, prends l'exemple sur nous. Si le mari de ma sœur ne m'avait pas accueilli chez lui, je ne sais pas où j'aurais élevé ta mère. Ton mari, ton premier mari, c'est ton boulot. Il faut que tu sois indépendant financièrement. Parce que ton mari, c'est un être humain aussi. S'il meurt, tu fais quoi? Moi, je ne savais pas que ton grand-père allait mourir. Tu vas te retrouver comment? Tes enfants, tu fais quoi?
Totalement, totalement raison. Je suis entièrement en phase avec cela. Et du coup, dans ces leçons apprises par vos grands-mères, qu'est-ce que vous transmettez, vous, à votre tour? Est-ce que vous avez ce lien-là encore aujourd'hui, par exemple, ce lien que vous avez pu avoir avec votre grand-mère, avec vos grands-mères, la présence qu'elles ont eue dans votre vie? Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous reproduisez et que vous retransmettez ou pas?
Moi, je le retransmets. Par exemple, je dis à ma fille, à chaque fois que je commence la phrase, elle a fini. Parce que ma mère, ma grand-mère, toute ma famille disait, un homme qui t'aime, qui ne te respecte pas, va-t'en. Il n'y a pas d'amour sans respect. Ton opinion compte, ton corps compte, toute ton autonomie compte. L'amour sans respect, tu dégages. Donc, à chaque fois que je commence, ma fille dit, ouais, je connais.
Ça, c'est très vrai. Sans respect, ça ne sert à rien. Ah, on ne va nulle part avec ça.
Même dans les relations amicales.
Hein. Oui, mais non, on va nulle part. On va nulle part, on s'arrête très vite. Vous quittez le Bénin à un moment. Vous décidez d'aller explorer d'autres mondes. Et vous avez, moi, de ce que je vois, trois vies différentes, trois moments différents. Vous avez le moment du Bénin, vous avez le moment de la France, vous avez le moment des États-Unis, qui sont trois moments complètement différents. Comment on passe d'un écosystème, d'un endroit à un autre? Les enfants.
Mais je suis partie du Bénin en 1983 parce que la dictature communiste devenait insoutenable pour moi.
Oui.
J'ai grandi. Et mon père me disait toujours, en tant qu'artiste, ne sois pas lié à un parti politique. Parce qu'ils viennent et ils partent. Ton indépendance, c'est ce qui fait de toi quelqu'un à qui on parle. En tant qu'artiste, tu es la personne qui ouvre des portes qui sont fermées. Et si quelqu'un veut t'empêcher de parler par ton art, soit tu arrêtes de chanter complètement, soit tu t'en vas. Et c'est devenu insoutenable pour moi. J'ai fait mon premier disque en 81. C'est ça qui a lancé ma carrière. Ça a commencé avec le promoteur local qui est venu dire à mon père, « Ouais, mais tu sais, Franck, j'avais décidé de produire ta fille, mais elle est trop petite, on ne la verra pas sur scène. » Et mon père lui dit, « Tu t'entends parler comme un idiot, là, toi ?» Et on a repris. Mon père dit, « Je vais le faire. » Il était déjà retraité. On a repris toutes les affiches. Les affiches existent encore, hein, avec l'écriture de mon père qui a changé la date. Et moi, je mettais les prix. Il n'avait aucune connexion de télévision, radio, rien du tout. C'était au Togo que je vais commencer. Il est retourné, il a payé. Et c'est comme ça qu'il a lancé ma carrière. Tout simplement pour prouver que quand on s'engage à quelque chose, on le fait. Et quand la dictature communiste arrive et que tout le monde était forcé de chanter, prêt pour la révolution, la lutte continue, j'ai dit, moi, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. Je préfère crever, je préfère qu'on me tue que d'aller chanter un truc. Je ne suis en révolution contre personne. Quelle lutte je fais? Je ne suis en lutte contre personne. C'est quoi cette histoire? Donc, il a été évident, à un moment donné, qu'il fallait que je parte. Parce que le dernier événement que j'ai fait, c'était pour la réunion des chefs d'État de la CDEAO. Et tu es devant des chefs d'État, une jeune fille, et les hommes là qui sont en train de te regarder comme si tu étais une prostituée en fait. Qu'elles te regardent comme un bout de viande sur un étalage. C'était pas terrible, quoi. et je ne pouvais pas rester là. Mes parents m'ont accompagné. Ils avaient senti que je n'allais pas aimer ça. On est retourné dans la voiture. Mon père m'a dit, tu vas sortir d'ici. Mm-hmm. Si tu ne pars pas, tu vas finir en prison ou moi, je vais y aller. Mm-hmm. Donc, il a fallu un an de préparation pour que je parte. Mm-hmm. Et ça voulait dire que dans mon passeport, je n'aurais pas l'autorisation de sortie de mon gouvernement. Parce qu'à cette période-là, il fallait demander l'autorisation de sortie et dire, quand est-ce que tu revenais? Si tu ne reviens pas, c'est ta famille qui prend tout plein pot. Donc, j'ai fui chez moi.
Oui.
J'ai fui, littéralement fui. J'ai couru, arrivé à l'aéroport. Le douanier m'a dit, disparais, cours. Et j'ai couru. Avec mon petit sachet en plastique, j'ai couru avec mon passeport dedans. Et je me suis mise dans l'avion et je suis rentrée sous les sièges jusqu'à ce que l'avion ne parte. J'arrive à Paris, accueillie par mon frère qui était étudiant. J'ai commencé à faire du babysitting, coiffure dans les salons, ménage dans les chambres d'hôtel, la totale. Moi, j'étais prête à faire tous les métiers possibles, tant que ce n'est pas la prostitution ni la drogue.
Pour quelqu'un qui avait déjà une carrière dans son pays, qui avait déjà son nom, comment on reprend à zéro? Et même, ce n'est pas à zéro, là, on est à moins de zéro. On est, oui. Comment on reprend? Émotionnellement, physiquement, comment on fait?
Moi, j'étais tellement contente de partir que pour moi, déjà dans ma tête, c'était un reset. Mmh. Je recommence complètement à zéro. Et là, je suis adulte. Mmh. Je me suis dit, je suis la personne qui prend les décisions maintenant. Mmh. Si j'échoue, c'est moi. Si je réussis, c'est moi. Donc, j'ai commencé les cours à l'école de musique en même temps que j'étais sur scène. Mmh. J'ai fait un trimestre avec mes copines à la fac de droit parce que je voulais être aussi droit. Je voulais faire les droits humains. Mmh. Et ça m'a, j'ai dit, maintenant, le droit est écrit pas pour servir la justice. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis partie. Mmh. Donc, pour moi, j'étais complètement prête à tous les sacrifices. Si vous m'avez vu à cette période-là, j'étais un squelette. Je ne mangeais pas à ma faim.
J'en avais
rien à faire. J'étais déterminée à avoir une carrière. Mm-hmm. Je bouge de là en 96 pour aller aux États-Unis. Parce que quand j'ai fait mon premier disque, j'ai eu un succès planétaire. Mm-hmm. La Tonga, ça a été un succès planétaire. Et je me suis rendu compte, quand la France, l'Europe et les États-Unis, mon business était beaucoup plus intéressant de l'autre côté. Je me suis installée, en fait, pour faire un projet de musique que j'avais quand j'étais enfant. Mm-hmm. Quand j'ai appris l'existence de l'esclavage, j'avais 9 ans. Mm-hmm. À 15 ans, j'apprends l'existence de l'apartheid en Afrique du Sud. Mm-hmm. Et là, ça a été le moment où je me suis dit, ça doit s'arrêter. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui fait que cette douleur et cette histoire ne soient pas toujours un poids? C'est créer des ponts. Donc, j'ai fait ma trilogie d'albums, Oremi, Black Ivory Soul, Oyaya, pour aller vers la diaspora noire. J'ai été au Brésil, à Salvador de Bahia, et j'ai fait les Caraïbes, et j'ai fait les trois albums pour montrer la force et la puissance de la mémoire de ces Africains qui sont partis, parce qu'il n'y a pas une seule musique sur cette planète où l'Afrique n'est pas au centre de ça. Le calypso n'existerait pas sans la musique africaine. La salsa, aucun, même la musique classique. Les sarabandes de Jean-Sébastien Bach, c'est la danse des esclaves au Panama. Point barre. Et ça, j'ai appris pendant mon voyage. Et c'est ça qui me donne la force d'être la personne que je suis. Je ne dois rien à personne. Personne ne me doit rien. Je suis un être humain qui doit s'exprimer dans toutes les formes de musique. Je fais, il y a des pièces symphoniques qui ont été écrites pour ma voix. Moi, nous les Africains, nous devons avoir le courage et la force de dire, on est capable de tout. Oui. On est capable de tout.
Oui.
Et on a tout ici.
On est capable de tout. On a tout ici.
Mini fanyeti kigana mwenzio na shindana malisi na we ingekuwa
Et il y a Oumi qui nous fait signe pour nous dire que nous sommes à la fin. Alors, je vais finir par deux questions. Ça, c'est les questions que je pose à tout le monde. Et c'est aujourd'hui, considérez-vous que vous êtes à votre place? Quand vous définissez votre place dans votre parcours de vie aujourd'hui, à votre âge, avec ce succès, avec tout ce qui vous entoure, considérez-vous que vous êtes à votre place, celle que vous avez choisie, vous?
Qui est-ce qui connaît sa place? C'est ça la question. Parce que si on savait, chacun d'entre nous, quelle était notre place, ce serait beaucoup plus simple la vie. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passe. Mm-hmm. Ma place, je ne sais pas où elle est encore.
Oui.
Je n'ai pas fini. Je sais que j'ai une place, j'aurai certainement une place six pieds sous terre à un moment donné. Mm-hmm. Ça, c'est certain pour tout le monde.
Oui.
Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je suis heureuse dans ce que je fais. Je vis de ma passion. Je me considère comme personne privilégiée. Je ne fais pas un métier pour lequel je me lève en me disant, je n'ai pas envie d'aller le faire. Je voyage, je fais des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Parce que j'adore être sur scène. Ma place est sur scène.
Et vous êtes à Dakar pour lancer la Fondation Batonga?
Je suis là pour lancer la Fondation Batonga. Mm-hmm. Et pour moi, les deux se rejoignent.
Totalement. Totalement.
On ne peut pas... Je dis toujours, nous devons être le changement que nous voulons dans le monde. Je ne peux pas être là où je suis en ayant entendu et entendant encore, aujourd'hui encore, comment on parle du continent africain, des Africains, et ne pas vouloir changer la donne.
Oui. Et pour finir, si vous aviez 20 ans cette année, qu'auriez-vous aimé savoir?
Si j'avais 20 ans cette année, j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt de faire ce que je fais. D'être là où je suis aujourd'hui à 20 ans, si j'avais encore toutes ces années-là, dis donc, je vais changer le monde. Mais si j'avais encore 40 ans plus là, c'est génial. Si j'avais 40 ans plus, si j'avais 20 ans aujourd'hui là, avec tout ce que j'ai fait jusque-là.
Oui,
là.
Exactement.
Ah, mais attention, personne ne m'arrête. Hein.
Merci beaucoup Angélique Kidjo, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation Féminine. Merci à Cœur Louise de nous avoir accueillis et merci à Oumi Ndour d'avoir facilité cette rencontre. Merci beaucoup.
Merci à toutes les femmes.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation Féminine. Je vous retrouve tous les 15 jours sur Du Coq à l'Âne.
Ainsi niche à mourir au flot. Samba de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho, assim deixa morrer o flor. Na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma pomba nasce ninho.